Radio Campus.
Non, je vous en parle parce qu'on vit un tournant capital de notre histoire. Une nouvelle ère. On entre dans une époque charnière.
Vraiment?
Ouais. C'est passionnant.
88.3
Radio Campus. La science infuse.
Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Orléans. Bienvenue dans la Science Infuse, votre magazine scientifique de l'après-midi pour pouvoir digérer tranquillement votre repas tout en apprenant des choses. Je suis Erwan et je suis ravi d'être avec vous jusqu'à 15h. Aujourd'hui, on va parler de science. On va parler de science sur le campus universitaire, mais pas que, étant donné que c'est tentaculaire, un peu comme Radio Campus, j'ai envie de dire. On va parler justement de science avec et pour la société qui est justement la mission de l'Université d'Orléans, qui est là pour justement faire la médiation, pour amener la science aux oreilles, aux yeux et à tous les autres sens du corps humain, de toutes et à tous. Et en deuxième partie d'émission, on écoutera deux épisodes de deux podcasts, étant donné que cette année, 12 étudiants et étudiantes doctorants qui viennent de filières scientifiques et littéraires se sont prêtés à l'exercice radiophonique pour raconter justement leur sujet de thèse en quelques minutes, en 10 minutes environ, pour être exact. Et c'est un atelier qui a été mené en partenariat avec Radio Campus Orléans et l'Université d'Orléans. Donc ça sera à découvrir en seconde partie d'émission. Mais pour l'heure, je suis avec mes deux invités. Nous avons Geneviève Guettem. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Alors toi, tu es chargée de mission science avec et pour la société et également enseignante chercheuse. On est également avec Emmanuel Sepa, bonjour.
Oui, bonjour.
Tu es mathématicien et membre du GT, SAPS, donc GT pour groupe de travail.
Exactement, oui.
Et tu es également une voix de Radio Campus, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, je participe à l'émission cinéma du mercredi soir.
Voilà, comme quoi on est tentaculaire, comme les sciences à l'Université d'Orléans. Alors, je le disais, beaucoup de choses qui vont se passer tout au long du semestre et de l'année, des événements scientifiques qui mettent justement toute cette culture-là à l'honneur. C'est la mission justement du SAPS, Science avec et pour la société, à ne pas confondre avec le STAPS, qui lui est le service sportif. Qu'est-ce que c'est le SAPS, Geneviève ?
Alors, Science avec et pour la société, c'est une mission de l'université qui se développe depuis 2 ou 3 ans. Le ministère a souhaité développer cette mission depuis, à peu près 2000. Ça a commencé à émerger à peu près en 2013, mais les choses ont vraiment, se sont vraiment décidées en 2022 après l'épisode Covid. Parce que vous avez tous entendu des choses un peu étranges sur le virus qui se déployait d'une certaine façon, qui réagissait d'une autre
façon. Tout le monde était devenu expert.
Tout le monde était, exactement. Les scientifiques étaient partout et nulle part. Donc il s'agissait de clarifier un petit peu la position de chacun. Et donc le ministère a créé cette mission qui s'appelle donc SAPS. Alors à l'université, on utilise toujours ces acronymes. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des confusions. Donc utilisons l'expression « science avec et pour la société ».
Et ça s'inscrit dans un label du coup national.
Absolument. Enfin, je vais y revenir par la suite parce que, en fait, d'abord pour préciser ce que ça recouvre. On s'est aperçu qu'il y avait besoin de rendre visible la recherche, de répondre à cette question, mais au fond, que font les chercheurs ? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qui se passe sur les campus et dans les laboratoires. Ensuite, savoir ce que font les chercheurs, très bien, mais pourquoi ils le font ? Expliquer cette recherche. Et c'est important de l'expliquer parce que, comme ça, il est possible d'avoir des retours. Et donc, peut-être de développer, de renouveler cette recherche grâce au grand public, grâce à la société. D'où cette double expression « pour » et « avec ». Il s'agit vraiment de fonctionner en cercle, d'initier un dialogue. Et donc, en fait, il y a vraiment besoin de mettre ensemble des différentes personnes pour répondre à ces questions, parce que les chercheurs ne vont pas travailler seuls. Donc il y a mise en place d'une équipe mixte à l'université, avec des chercheurs, mais aussi des administratifs, mais aussi des partenaires, dont Radio Campus.
Et oui.
Il va également y avoir d'autres liens avec l'université de Tours, qui elle-même a son réseau de partenaires et
sa
de
Radio
chercheurs.
Campus.
Et sa Radio Campus,
exactement.
Et
j'en profite justement pour saluer mes collègues de Radio Campus Tours. Je pense à Mélissa et Sébastien. Mélissa, notamment, on la retrouve chaque semaine, voire même quotidiennement, très régulièrement, dans son émission scientifique qui s'appelle La Méridienne, qui est aussi diffusée ici à Radio Campus Orléans. Donc, chers auditeurs et auditrices, allez également écouter la super émission de Mélissa Vicuis de Radio Campus Tours, La Méridienne.
Et donc, juste pour terminer cette présentation, en fait, le label SAPS qui a été obtenu récemment, c'est un consortium, en fait, entre l'Université d'Orléans, l'Université de Tours et l'INSA. Donc, en fait, ce label va permettre d'obtenir des fonds qui vont permettre de développer davantage d'actions et au niveau régional.
Donc, c'est vraiment amener les sciences vers le public. Donc, ça se déploie de différentes manières. Alors, ce qu'on disait, c'est que cette année, tout au long de l'année, on va découvrir ici même sur Radio Campus Orléans à l'antenne de la Science Infuse. On va inviter régulièrement des chercheurs, des chercheuses, mais également nos auditeurs, auditrices pourront les rencontrer, pourront rencontrer toutes les personnes qui font justement les sciences au travers de plusieurs événements. Alors, le premier en date, il arrive assez rapidement. Il arrive dans quelques semaines. C'est la fête de la science et je vois que tu désignes Emmanuel du regard.
Bah, disons que nous allons participer à plusieurs choses et c'est vrai que c'est un événement qui devient bien connu maintenant, à la fois à Orléans mais aussi à l'université. De nombreux étudiants y participent et nous allons être sur place.
Donc oui, effectivement, c'est un rendez-vous annuel, c'est une rencontre entre les chercheurs et le grand public. Il faut savoir que quand on est chercheur, en fait, Geneviève en a bien parlé, le problème c'est qu'c'est assez élitiste et très vite, en fait, on est coupé un petit peu du grand public. La recherche fait que pour rester au top niveau international, eh bien, en fait, c'est très pyramidal. Et au fur et à mesure, on se retrouve à être dans un petit groupe avec quelques chercheurs qui sont spécialistes comme toi dans le monde. Et donc, la fête de la science, qui va arriver bientôt, la début octobre, c'est un rendez-vous important qui existe depuis longtemps, auquel j'ai participé maintes fois, qui permet justement la rencontre entre les chercheurs et le grand public. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de rencontres que je connais bien entre les chercheurs, les chercheuses et les élèves, les collégiens, les lycéens. Mais là, c'est vraiment l'occasion de toucher aussi les parents, les familles. Et effectivement, Geneviève a parlé d'un cercle. C'est important dans le cycle, dans l'acronyme avec et pour. En fait, c'est renouvelé. En fait, c'est-à-dire, c'est parfois, en fait, on ne sait plus vraiment pourquoi et pourquoi, comment on recherche. Donc, l'intérêt d'une plus grande porosité entre chercheurs et puis société. Ça veut dire à la fois les impliquer, donc il y a de la recherche participative, les impliquer. Moi, je travaille beaucoup sur la vulgarisation, sur la notion de traduction. Donc, depuis longtemps, je me pose des questions en termes de traduction, comme on traduit une langue étrangère. Qu'est-ce qui reste de la recherche? Qu'est-ce qui passe au niveau du grand public? Qu'est-ce qu'on peut diffuser? Et donc, le SAPS a le mérite. Enfin, on est vraiment très, très, très heureux que cette structure voit le jour et qu'on arrive maintenant à, même si des actions existaient auparavant, maintenant on arrive vraiment à officialiser, à mettre des mots. Et puis grâce au concours de plusieurs collègues d'horizons différents, comme Geneviève, qui vient des arts plastiques, moi je suis mathématicien. Donc on a vraiment on arrive à être complémentaires, à trouver des pistes de recherche, à s'entraider. Et on voit que finalement, on a de façon transversale, au-dessus des disciplines qui sont différentes, il y a un langage commun dans la volonté de diffuser, de populariser, de promouvoir les matières. quelle qu'elle soit.
Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour vulgariser, comment est-ce qu'on fait pour enlever le jargon qui peut être un petit peu trop technique? Quel jargon est-ce qu'on va garder pour pouvoir justement mettre dans les consciences de tout le monde? Comment on fait pour vulgariser et rendre accessible, Geneviève?
On va fonctionner surtout de manière ludique, de façon, sous forme d'atelier. En fait, il y a... on va, comment dire, pluraliser les regards et les formes de médiation. L'idée, c'est de travailler de façon horizontale, non plus en surplomb, comme l'a dit Emmanuel, à savoir le chercheur qui a, on pourrait dire, ce privilège de la parole et de l'écriture, mais donner la parole à d'autres qui n'ont pas forcément l'habitude de parler et d'être entendus. Et cette horizontalité va... permettre à chacun d'avoir envie de participer, donc organiser une exposition, mais concevoir cette exposition avec les partenaires, organiser une table ronde, être à même de laisser parler les autres, organiser une présentation sur les réseaux sociaux, sur essayer d'exploiter un petit peu toutes les formes possibles. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas vraiment de forme définie une fois pour toutes. L'idée, c'est de se renouveler constamment et c'est ce que souhaite en fait développer l'université, c'est de développer ce qu'on appelle la recherche participative, donc mettre en avant nos communs. Qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce qu'on peut à la fois faire bouger parce que c'est pas si simple de mettre en commun et ça suppose d'aller vers des structures et des personnes qui sont différentes. Ça suppose de se mettre en danger. Ça suppose de reprendre, de modifier ses modalités de travail. Ça suppose de sortir de sa zone de confort.
Donc le scientifique n'est plus un vieux sage dans sa tour d'ivoire. On essaie alors de faire de la médiation, on essaie donc cette horizontalité, tu le disais, on essaie d'aller voir le public et de lui-même lui faire faire le chemin de raisonnement jusqu'à retrouver les conclusions qu'un scientifique aurait trouvées.
Pour rebondir ce qu'a dit Geneviève, ce qui est important en fait, c'est la notion d'apprentissage implicite ou explicite. Je vais prendre un exemple simple. Donc moi j'ai été chercheur recherche fondamentale en mathématiques et maintenant je suis formateur premier second degré, donc à la fois les profs des écoles et les futurs profs de maths des collèges lycées. Eh bien, une même expérience, selon qu'elle est formalisée, peut être vécue à des moments très différents. Par exemple, on fait des jeux de la marchande en CP, donc avec des jetons. On fait des échanges de jetons de différentes couleurs. Quand tu as 10 jaunes, tu auras un rouge. Quand tu auras 10 rouges, tu auras un vert, etc. Donc ça, on peut le faire très tôt. Et en fait, ça, c'est implicite. L'enfant, sans se rendre compte, il manipule l'écriture en passe 10. Donc en fait, on n'écrit pas les choses, on va le faire plus tard au collège ou au lycée. Donc c'est ce qu'on appelle côtoyer un concept de façon inconsciente, de façon implicite. C'est-à-dire en fait, il fait l'écriture en base 10, les unités, les dizaines, etc. Mais il n'a pas encore écrit, il n'a pas encore les moyens d'écrire. Donc au niveau du langage, vous voyez, on est avant le langage. Donc on est au niveau du jeu. Donc moi j'ai dirigé une commission nationale à Paris au niveau des jeux mathématiques, donc je travaille beaucoup sur les jeux et Geneviève a raison d'inciter là-dessus. Donc par le ludique et par l'implicite, on peut faire passer plein de choses, mais évidemment il n'y aura pas l'écriture formelle explicite des symboles mathématiques pour ce qui concerne ma discipline.
Donc finalement on construit en fait, avant de mettre le langage, on construit le mécanisme interne chez l'enfant.
On travaille sur l'intuition, sur le plaisir. Ouais. En fait, pour parler un petit peu ce que je connais, les mathématiques, je fais souvent le lien entre mathématiques et musique. Donc on dit souvent que les mathématiques c'est une musique silencieuse et que la musique c'est une mathématique sonore. Eh bien en fait, il y a en mathématiques un solfège. Il y a une notion de solfège, c'est-à-dire en fait, les élèves à l'école, collège, lycée, ils vont devoir apprendre des règles, ils vont devoir faire du solfège. Donc il y a un côté un petit peu fastidieux, c'est pas un pinceau, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Et en fait, moi je travaille, j'avais un ami qui avait créé une association qui s'appelle Plaisir Math. En fait, il faut arriver à donner aux élèves, il faut arriver à montrer que, eh bien, il faut pas faire uniquement du solfège, il y a des moments où il y a un plaisir à faire des mathématiques, c'est-à-dire on va voir la beauté de tout ça. Donc il ne faut pas attendre de le faire uniquement après l'université. Je me suis rendu compte que plein d'élèves, en fait, n'iraient pas à l'université. Donc j'étais sensible et j'ai beaucoup participé, j'ai lancé plein d'actions justement pour montrer aux élèves la beauté des mathématiques et justement sans expliciter les choses, mais en faisant beaucoup de conférences et vulgarisations, en participant à des actions comme Math Engine ou les laboratoires de maths par exemple, où on peut justement montrer plein de choses qui se font après, de façon très tôt, grâce au jeu ou avec de la magie, avec des jeux de passe-passe, des choses comme ça, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer la beauté et de le mot le plus important en science, c'est le mot pourquoi, c'est-à-dire la question prime sur la réponse après. C'est-à-dire en fait que les enfants, il faut arriver à toucher, il faut piquer la curiosité, il faut qu'il y ait une étincelle et que les enfants aient envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et quand on arrive comme ça à ce pourquoi, quand on les a surpris, eh bien là en fait on peut commencer à et en fait c'est Descartes, c'est le doute permanent, c'est se demander pourquoi. Donc en science constamment, dès qu'on a une réponse, on va élargir la question initiale pour en provoquer une nouvelle. Et c'est ce questionnement, et beaucoup de gens ou d'élèves en fait passent à côté de ces questions. Il y a von Neumann, qui est un grand mathématicien, qui a dit une phrase que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup au début de mes conférences de vulgarisation. Il a dit un jour que les gens qui pensent que les mathématiques sont compliquées pensent aussi que la vie est simple. C'est-à-dire le fait d'appréhender les mathématiques, de rentrer dedans. Ouais. En fait, c'est déjà, il faut se poser des questions, il faut avoir une curiosité intellectuelle, il faut voir entre les lignes, etc. Et c'est ce doute permanent que moi je ressens vraiment de façon très forte qui fait vraiment avancer, quoi. Il y a plein de gens qui ne se posent, si on ne se pose pas de questions, justement, on ne voit pas l'intérêt.
Mais pour créer la surprise, pour amener les questions, il faut vraiment inventer des dispositifs. C'est un peu tout le travail justement de cette équipe SAPS qui va essayer de créer une synergie entre différentes personnes, de mettre ensemble des chercheurs, des associations, des musées, etc. pour certains ayant une habitude de s'adresser à certains publics et d'autres pas. Donc en fait, l'idée, c'est de croiser nos savoirs pour toucher le plus de monde possible, mais de la façon la plus pertinente possible, en testant des choses. C'est un fonctionnement un peu en essai-erreur aussi. Et c'est une forme de recherche. Et il va y avoir une recherche sur les SAPS, ça se développe.
Et ici, on est à l'université, donc on a des étudiants et des étudiantes. On l'a vu avec les enfants et plus tard, chez les adultes, bien après même l'université, comment est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, on disait que suite au Covid, tout le monde était devenu expert, experte sur les questions justement liées à la pandémie. Et on a vu justement exploser le conspirationnisme. Comment est-ce qu'on fait justement pour travailler avec des personnes qui pensent que il y a des complots, qui pensent qu'on leur ment en permanence? Comment est-ce qu'on fait pour réinsuffler justement de l'esprit critique?
En fait, c'est tout le défi de la science. En fait, il faut arriver à vulgariser tout en restant précis et rigoureux. Et en fait, on a actuellement une montée un petit peu, vous le dites, une tendance conspirationniste, où on a même des platistes, par exemple, parfois en cours. Donc il faut arriver à convaincre, avec des sites comme Wikipédia, etc., les gens, parfois les élèves me disent que la science est simple, c'est accessible, il suffit de lire les choses. Et en fait, on leur montre qu'il faut un regard, en fait. Il faut un regard, il faut un point de vue, et tout le monde, s'il suffisait de lire ces sites-là, en fait, bah, tout le monde serait chercheur. Donc en fait, il faut arriver à convaincre qu'il y a une notion de, surtout en mathématiques, mais dans les sciences dures, en fait, on peut vérifier. Donc quand les gens affirment que la Terre est plate ou toutes sortes de conspirations, en fait, on peut arriver à les convaincre du contraire, on peut arriver à argumenter, démontrer. En mathématiques, moi, que je connais un peu plus, moi, je suis fier d'avoir une notion de démonstration. Donc, contrairement aux autres disciplines, il y a une notion de vérité interne en mathématiques. Donc, un résultat est soit vrai, soit faux. Donc, moi, avec les élèves, ça m'est arrivé pendant mes cours, que les gens aillent voir sur Internet, vérifient ce que j'annonce, aillent voir mon parcours, etc. Donc, on a maintenant un public comme ça qui est très critique. Et qui va proposer des choses alternatives, etc. Donc effectivement, il faut être assez sûr de soi, il faut maîtriser les choses, et on arrive toujours à montrer que justement, on arrive à prouver qu'il y a une notion de vérité, qu'il y a une seule. On peut démonter les conspirations et montrer que justement, il faut pas confondre, en fait, c'est le danger dans cette diffusion. On traduit, on simplifie, mais en même temps, il faut garder une rigueur. Donc, en fait, il faut constamment contrôler. Moi, quand je vulgarise le mouvement brownien, des choses qui sont niveau bac plus 8 ou bac plus 10 que j'ai vu moi en thèse ou en recherche, quand je le fais à des collégiens, je suis content de montrer l'idée générale, mais j'ai toujours moi en tête, évidemment, la construction rigoureuse. Donc, quand c'est fait avec des gens qui connaissent bien, il n'y a pas de danger parce qu'on sait vraiment ce qu'il y a autour. Mais c'est caché, mais c'est ce que l'on ne dit pas, qui est caché, qui nous permet d'être vraiment crédibles et sûrs de soi. Parce qu'on maîtrise ça. On sait que c'est pas très loin.
Alors, juste Geneviève. Une petite. Tu parles beaucoup de sciences dures et de vérification, mais c'est vrai que dans les SAPS, donc science, quand on dit science, ce n'est pas uniquement les sciences expérimentales. Humaines, oui. En fait, l'idée, et c'est une chose qui, jusqu'à présent, posait un peu problème, la fête de la science était quasiment réservée aux sciences expérimentales. Les sciences humaines estimaient qu'elles n'avaient pas la parole, n'avaient pas besoin d'y participer.
Est-ce qu'on peut redéfinir qu'est-ce que sont les sciences expérimentales et les sciences justement humaines et les autres types de sciences ? On entend souvent également sciences molles, sciences dures, comme s'il y avait une hiérarchie avec des sciences plus légitimes que d'autres.
Absolument, et c'est vrai que il y a une hiérarchie. Actuellement, dans l'esprit commun, on va dire, le sens commun, induit une hiérarchie qui, justement, tient à la vérification. Et le fait qu'en sciences humaines, l'humain, c'est quelque chose, justement, qui ne peut pas se prouver, qui est fluctuant, qui est extrêmement flexible, qui est après très, très difficile à cerner.
Qui est subjectif.
Subjectif, mais en même temps, et c'est vrai qu'en France, il y a aussi une tendance très française depuis Descartes, etc., à vouloir avoir une sorte de contrôle et se lâcher prise, qui est assez propre aux sciences humaines quand on travaille surtout en sociologie. Je ne parle pas de la littérature quand on travaille sur un auteur en plus qui va être bien reconnu, c'est moins difficile. Mais certaines disciplines font débat. Et c'est vrai que quand on parle de science avec la société, il va y avoir des sciences pour lesquelles le public va être relativement d'accord, et puis d'autres qu'il va mettre en doute. Et c'est vrai que cette idée de doute va être particulièrement travaillée par les sciences humaines, et là, les dispositifs vont relever beaucoup du débat, du questionnement où le chercheur ne va pas apporter de réponse, ne va pas apporter quelque chose qui peut se vérifier et clore le débat. Il va plutôt l'ouvrir. Et c'est une autre compétence, c'est une autre posture, mais qui est aussi une posture de recherche.
On va continuer cette émission en musique. Restez avec nous, Geneviève et Emmanuel, dans La Science Infuse. On est ensemble jusqu'à 15h sur Radio Campus Orléans. On va voir dans quelques instants un petit peu l'agenda des prochains mois et des prochaines semaines que réserve du coup le SAPS, Science avec et pour la société, qui est la mission de l'Université d'Orléans, qui est dédiée justement aux thématiques autour de la médiation scientifique. The New Depression, c'est le titre de Brant Espernel que je vous propose d'écouter. À tout de suite. Bring on some flight or fancy. Bring on a tragic degree. Bring on a high-hole lady. Bring on fantasy. Bring on the ascended masters.
They say it's the new depression. So why am I filled with glee? Everybody's coming down quickly. Now they can all join me. Me.
Brontës Purnell avec The New Depression dans la science infuse. Je vous le promets, vous n'allez pas faire de dépression avec les sciences, les mathématiques, la physique et non, parce que la science, ça ne fait pas faire déprimer. Au contraire, ça éveille l'esprit. On va justement vous proposer dans cette deuxième partie d'interview, deuxième partie d'émission, de découvrir un petit peu l'agenda que le SAPS, la mission de l'Université d'Orléans de sciences avec et pour la société, avec mes deux invités, Geneviève Guettem et Emmanuel Sepa. Alors, qu'est-ce que vous concoctez ? On le disait tout à l'heure, on commence le semestre avec la fête de la science, voire même avant, puisque la fête de la science, c'est mi-octobre et il y a une date au bouillon aussi.
Alors, en fait, la fête de la science, ça commence le 5 octobre.
C'est ça. Donc, le lendemain, on a une soirée au bouillon.
Voilà, c'est ça. Et ça dure une dizaine de jours, deux week-ends, avec un premier week-end sur le campus du CNRS, qui est rarement ouvert. Donc, c'est l'occasion d'aller y faire un tour et de non seulement de voir des chercheurs, de voir des associations scientifiques, parce qu'il n'y a pas que des chercheurs à la fête de la science, mais vous allez également voir des lieux. Et une des idées, une des choses que la mission SAPS souhaite faire, c'est de pluraliser les lieux. De façon à ce que le public se rende compte que un laboratoire, c'est pas forcément des blouses blanches et des microscopes, et ça peut d'abord être des espaces très variés. Quand on étudie les étoiles, c'est pas tout à fait pareil, et puis quand on étudie de la littérature, c'est encore très très différent. Donc il y a ces lieux, et le CNRS a ces différents champs.
Moi, j'ai le souvenir que jusqu'à présent, la fête de la science sur le campus de l'Université d'Orléans, c'était en BU de sciences, et en plus de ça, il y a des maquettes et on peut justement s'instruire avec des maquettes. Il y a des activités pédagogiques et interactives.
C'est ce que font les laboratoires en fait, et les doctorants sont très impliqués dans ces actions. Ils ont des exercices, des jeux à faire au public. Donc ça, la fête de la science, deux week-ends, énormément de lieux et de propositions différentes. Donc ça, c'est la première chose, et c'est quelque chose de régional, en fait. Et on peut aller...
C'est même national, la fête de la science.
Alors, c'est national, mais après, c'est décliné de façon régionale.
Ouais, régionalement, il y a... là, c'est Centre Sciences, en Centre Val de Loire.
Voilà, à Orléans, en région, vous avez une structure qui s'appelle Centre Sciences, et c'est eux qui ont la charge, justement, de décliner la fête de la science au niveau de la région. Donc ça, c'est bientôt, et c'est vraiment à ne pas manquer. Ensuite, il y aura des événements beaucoup d'ampleur moindre, mais tout aussi intéressants. Au niveau de la BU Sciences, il va y avoir une rencontre autour d'une exposition qui s'appelle 15 informaticiennes, paroles d'informaticiennes. Et des jeunes filles qui ont fait des études d'informatique ont été interviewées et leur cursus est exposé et il va y avoir une table ronde qui va être organisée et qui sera retransmise en live sur les différents sites de l'université, sachant que l'Université d'Orléans, ce n'est pas seulement Orléans, c'est aussi les antennes régionales, et ce serait dommage de les laisser de côté. Donc des événements à la fois, nationaux, régionaux, et des choses plus ponctuelles, mais qui sont tout autant partagées.
Alors cette exposition justement, donc c'est avec une table ronde, c'est ce que je vois, hein, c'est à partir du 17 octobre, c'est ça ?
Ce sera, alors la table ronde, l'exposition commence avant. Mais la table ronde aura lieu le 17 octobre. L'exposition sera visible pendant 15 jours, mais le 17 octobre, il y aura ces moments de rencontre avec quelques des informaticiennes de l'université, mais aussi une enseignante de lycée, qui vient parler de la façon dont les filles s'investissent dans les sciences, dans la mesure où c'est aussi une des choses une chose importante, c'est de montrer que les filles peuvent aussi accéder à ces carrières, et souvent elles s'auto-censurent.
Et c'est organisé par le laboratoire LIFO.
Absolument. Qui est le laboratoire d'informatique je ne sais pas exactement le nom.
Laboratoire d'informatique fondamentale Orléans.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est le nom de l'acronyme.
Il y a aussi l'événement du CHU aussi.
Alors, le 18 novembre, en fait, depuis que l'université a un volet santé, eh bien, l'hôpital, qui est devenu universitaire, s'associe à l'université pour mettre en place un certain nombre d'actions, justement, de médiation pour et avec la société. Et donc, il y aura deux artistes qui vont être invités et le questionnement sera sur la relation entre l'art et le soin. Et l'école de kiné va être impliquée, les structures de santé aussi, l'école de formation d'assistance sociale par exemple. Donc on sort un petit peu de l'université, là aussi il y aura une table ronde et ensuite cette réflexion sera développée à l'université de Rennes.
Oui, c'est ce que je vois, il y a justement ce côté-là de collaboration avec une autre université en France qui cette fois est à Rennes. Peut-être que nos amis de SILAB, la Radio Campus de Rennes, aura l'occasion de pouvoir aussi couvrir l'événement et en parler sur leur antenne. D'ailleurs, leur fréquence, elle est toute proche de la nôtre, c'est le 81.1. À Orléans, on est sur le 81.3.
Mmh. Alors, je ne vais pas faire l'inventaire de tout ce qui s'annonce. En fait, les choses seront annoncées régulièrement. Voilà, c'est ça.
Alors, par contre, en effet, il y a peut-être, on peut mentionner les 12 et 13 décembre, un colloque à Blois sur le castor et un autre animal qui a été assez emblématique au cours de ces derniers mois. Et ça doit faire un an et demi maintenant qu'il doit circuler sur tous les différents campus. C'est un grand rhinocéros.
Absolument. Et il va continuer à circuler parce qu'en fait,
Il était à Chartres fin août.
En fait, on a inversé un petit peu le parcours. Il est d'abord allé à Châteauroux. Et
d'accord.
Il arrive à Chartres là très prochainement. Il va continuer son itinérance. Et l'idée, c'est qu'il termine dans un an et demi, deux ans, en fonction de l'état des travaux, puisque l'idée, c'est qu'il termine pour l'ouverture du site Madeleine.
D'accord.
En 2026-27. Ouais. Enfin bon, on verra.
Eh bien, c'est un grand programme. Alors, peut-être que... je crois qu'il y avait une autre date. Il y avait d'autres dates, mais peut-être un petit peu courant 2025. Je vois qu'il y a un contrat doctoral. Je vois qu'il y a un congrès également en mai 2025. Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce qu'il est peut-être encore un petit peu tôt ?
Non, c'est bien de commencer à en parler. En fait, l'association La Main à la Pâte a... mis en place un dispositif qui associe des doctorants et des élèves d'école primaire pour que les doctorants découvrent ce public et que le public, ses enfants, découvrent aussi la recherche. Et donc, des doctorants vont aller dans des classes. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est pas nouveau que des doctorants aillent dans des classes. Mais jusqu'à présent, ça se limitait un peu au lycée ou au collège. Mais aller dans les écoles primaires, c'est quelque chose qui est très important parce que plus on commence tôt et plus on sera efficace.
Et on crée justement ce que tu disais tout à l'heure, Emmanuel, on crée justement cet éveil, cette curiosité. Puis également, je vois qu'il y a le mois sans tabac, évidemment, en novembre. Où est-ce qu'on peut retrouver l'intégralité de cet agenda ?
Alors, c'est en construction.
Sur ouais,
c'est en cours.
Voilà. Il y a en fait des pages SAPS qui sont en cours de construction sur le site internet de l'université. Et un des objectifs du label,
oui,
c'est de coordonner notre information entre Tours, Orléans et l'INSA, d'harmoniser un petit peu tout ça, d'être efficace.
Pour devenir visible.
Voilà, pour l'instant, nous sommes, on pourrait dire, en rodage. Donc les choses arrivent, mais il n'y a pas vraiment encore de grande visibilité, mais ça va venir.
C'est naissant, c'est en cours de construction, et puis voilà, on l'a en exclusivité du coup sur Radio Campus Orléans. Donc pour retrouver cet agenda, il faudra réécouter le podcast de cette émission qui sera disponible à partir de demain sur notre site internet, c'est orléans.radiocampus.org. Peut-être avant qu'on se...
Ouais, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Geneviève, donc il y a plein d'informations passionnantes. Un point qui me paraît important, c'est la dialectique, la différence entre l'aspect professionnalisant et l'aspect culturel. Donc on voit beaucoup de gens qui viennent à la fête de la science, il y a dans les journées portes ouvertes, il y a parfois des classes qui viennent avec leurs professeurs. Bien souvent, les gens viennent pour chercher un métier éventuel pour leurs enfants. Donc ça, c'est bien, c'est un premier niveau qui est intéressant, mais il faut arriver à aller au-delà de ça, en voyant l'aspect culturel en fait des sciences. Donc ce qu'on vise aussi à travers le SAP, c'est vraiment les liens profonds entre société et recherche. Et cette démarche-là, j'ai envie de dire qu'elle était déjà engagée parce que depuis de nombreuses années, en particulier avec l'avènement de l'informatique, on a dû s'interroger en sciences sur la mission justement de l'enseignement des sciences. Donc au fur et à mesure, il y a une espèce de remise en cause parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en cours, en mathématiques ou ailleurs, et que maintenant les machines peuvent faire. Donc les familles, la société, surtout les élèves sont un petit peu un relais, nous disent à quoi ça sert d'apprendre ça, puisque la calculatrice le fait, le calculateur formel peut le faire, etc.
Il faut bien des gens pour construire ces machines et ces calculateurs.
Oui, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on ne forme pas uniquement des futurs profs de maths ou de physique ou de littérature. Ils ont l'impression que c'est un petit peu réservé à des spécialistes, et qu'eux, ils veulent être uniquement utilisateurs. Et du coup, l'utilisateur peut utiliser la machine. Et donc, en fait, ça participe déjà du même élan, c'est-à-dire, en fait, on forme pas uniquement on forme aussi des futurs citoyens. C'est-à-dire, quel est le lien
critiques, des voilà, esprits qui sont exactement. Capables de réfléchir.
Donc moi, en fait,
même.
Ce que je leur dis toujours, en fait, moi, je ne cherche pas à vous apprendre le théorème de Pythagore ou la dérivation ou l'intégrale. Moi, ce que je vise, en fait, c'est je forme un citoyen. C'est-à-dire, en fait, l'esprit critique et comment poser et résoudre un problème. Et la résolution de problème, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire le boulanger, le mécanicien, l'assureur, tout le monde, l'ingénieur, le prof, la secrétaire, le dentiste. Tout le monde, chaque jour, doit poser un problème et le résoudre. Donc c'est cet aspect comme ça universel, cet aspect général qui m'intéresse moi. Et donc en fait c'est un peu un prétexte en fait. Ce que l'on fait en mathématiques, évidemment, va participer à cette dynamique-là.
Finalement, on participe à la construction du cerveau finalement de l'enfant en fait avec des cours de mathématiques.
Exactement, exactement.
Et ça permet plus tard
pas uniquement en mathématiques, toutes les disciplines, toutes justement, les disciplines. C'est complémentaire. Voilà. Il y a quelque chose qui se met en place et qui permet de construire. Et justement, c'est l'intérêt de voir l'adéquation entre ce qu'on leur apprend et puis les besoins sociétaux ultérieurs.
Et puis sortir de l'école, parce que c'est vrai qu'à l'école, on estime que bon, c'est normal qu'on apprenne à apprendre, mais en fait, ailleurs, c'est encore possible. Et il y a aussi une demande des élus pour avoir des contacts avec les chercheurs, pour justement répondre à certaines questions qui leur arrivent et à laquelle ils ne sont pas forcément préparés ou il va y avoir un certain nombre d'a priori. Et c'est vrai que les chercheurs vont les aider à, grâce à une mise en débat, à créer des questions surtout. C'est pas apporter des réponses, mais créer des questions.
Et vous, Geneviève, Emmanuel, qu'est-ce qui a attisé la curiosité de l'enfant que vous étiez et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes dans ces domaines-là ?
Ah, difficile question, parce que c'est vrai que les choses sont arrivées. Il y a un goût personnel, il y a des choses qui nous intéressent. Après, une personnalité, des occasions aussi. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément l'école. C'est justement peut-être ce qu'on a pu rencontrer ailleurs, et ni dans la famille. Il y a des choses comme ça qui nous emmènent. Et on se construit petit à petit, et puis on arrive à l'université, et là on a envie de partager.
Moi c'est un petit peu pareil. Moi je viens d'un milieu très très modeste où il n'y avait aucun enseignant, personne n'avait fait d'études. Donc comme le dit Geneviève, c'est quelque chose de... on est avec cette capacité-là. Moi, je sais que j'ai toujours eu envie de comprendre, en fait. Dans tous les domaines, il y a une curiosité, il y a une envie de savoir qui touche le cinéma, la littérature, la peinture. Donc je suis fan un petit peu de tout. Et il y a une envie à la fois d'embrasser l'ensemble. Donc c'est le côté... je me sens très polymathe, donc je suis intéressé par toutes les disciplines. Je lis des thèses en littérature, en peinture, etc., ou pas uniquement en maths. Et c'est toujours le désir de comprendre, c'est-à-dire en fait toutes les questions. Et je me demande toujours pourquoi, constamment pour tout. Alors j'ai dû restreindre un petit peu, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout, mais tout ce qui touche l'humain m'intéresse beaucoup. Et du coup, c'est une quête, je suis toujours en quête de... Donc c'est une enquête, et en fait ça ne se... je pensais au fur et à mesure que ça allait s'apaiser, au fur et à mesure qu'on allait apprendre plein de choses. Et en fait, ça me rappelle une anecdote. Je me rappelle d'un, très rapidement, un professeur que j'admirais beaucoup, un professeur émérite qui était parti à la retraite et qu'il avait dit dans son discours de retraite, plus j'avance et plus je me rends compte que je ne sais rien. Donc, alors qu'il était vraiment, c'était quelqu'un, c'était une sommité, etc. Et moi, j'avais pris ça pour de la fausse modestie. Et en fait, je me rends compte, j'ai mis longtemps à comprendre que, en fait, au fur et à mesure, plus on découvre des pans dans différents domaines, on se rend compte, en fait, de l'existence de ces questions, en fait. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ces domaines-là, malheureusement, et en fait, ils n'imaginent pas les questions qui s'y posent. Et en fait, quand on commence à se poser des questions sur Van Gogh, sur le cinéma de Wong Kar-wai, mais dans tous les domaines, les maths, la physique, et en fait, on voit qu'il y a des problèmes partout. Et en fait, plus on ouvre des livres, et plus les questions apparaissent. Et ces questions sont... Et effectivement, maintenant, je comprends bien son point de vue. Et moi, au fur et à mesure que j'avance, en fait, les questions, il y a de plus en plus de questions. J'ai une pile comme ça, avec pas forcément des réponses. Et c'est pas forcément grave. Et justement, je suis ravi qu'il y ait toutes ces questions. Et c'est aussi le « je sais que je ne sais pas » aussi de Socrate, dont je parle souvent aux élèves. Et moi, je trouve que le « je sais que je ne sais pas », il est très important. Il est tellement mieux que je... Malheureusement, ce qui est triste, c'est je ne sais pas que je ne sais pas quoi. Donc, c'est très bien de savoir que tout ça existe et qu'on a envie d'explorer. Et ça ne se calme pas avec les années, au contraire. Et je voulais juste rebondir au niveau des annonces de Geneviève. Il y a aussi Marmite. Donc, il y a Marmite auquel je suis associé, qui vient de commencer là, qui fédère aussi. Il y a une volonté. Donc, il y a plein d'actions qui existent depuis longtemps. Moi, je fais plein de choses depuis longtemps. Et là aussi, il y a une volonté. Donc, ça, c'est vraiment réservé maths informatique. Donc, c'est la maison des actions régionales pour les mathématiques, l'informatique et leurs interactions. Et le but, c'est de promouvoir, de valoriser, de populariser ces disciplines auprès du grand public. Donc là aussi, vous voyez, c'est la volonté, c'est les élèves, c'est le grand public en général. Donc c'est les sciences pour toutes et pour tous.
Non, juste peut-être aussi pour synthétiser un petit peu tout ça, c'est vrai que pour parler des SAPS, et chacun peut peut-être s'y retrouver dans ces questions, l'idée c'est de se poser, de savoir dans quel monde on habite. Quel monde nous habitons et comment on veut continuer avec ce monde-là ? Est-ce qu'on veut le laisser tel qu'on l'a trouvé ? Est-ce que dans quel état on va le transmettre ? Donc c'est vraiment une synthèse, une question qui se pose à tout le monde.
Et on arrive justement sur le tout dernier clin d'œil, la toute dernière question, c'est qu'en 2024, Radio Campus fête ses 30 ans. Et vous, comment sera le monde dans 30 ans pour vous ? Geneviève ?
Disons que moi j'ai tendance à fonctionner un peu au fil de l'eau. C'est vrai que ma recherche qui se déploie en sciences humaines à la limite des sciences sociales avec justement les publics, on va dire, empêchés. Des gens qui ont du mal à accéder à l'éducation, qui ont du mal à accéder à la langue. J'essaie de faire en sorte de leur donner une chance et de faire en sorte que ceux qui ont accès à la langue et à l'école se rendent compte des difficultés des autres, de travailler sur l'altérité, travailler sur l'inclusion. Et moi, le monde que j'espère, c'est justement peut-être un monde où ce travail aura eu un petit effet. Maintenant, il faut être modeste, chacun met sa petite pierre, mais c'est une forme de recherche auquel je crois.
Et toi, Emmanuel ?
Moi, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est imprévisible et inégalité. Imprévisible, la spécificité du monde actuel, c'est qu'en fait, on est incapable, ça bouge tellement vite, on est incapable de prévoir ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans. Et ça, c'est tous les chercheurs s'accordent sur ce point-là. Il y a de ça 50 ou 50 ans, on avait quelque chose de linéaire et on arrivait à prévoir, il y avait une filiation, on voyait ce qu'allaient faire les fils, les filles de leurs parents. On pouvait prévoir l'avenir de la société au moins à court ou moyen terme. Et là, en fait, il y a un caractère imprévisible qui est à la fois qui peut inquiéter certaines personnes et qui est en fait dû à la qualité, en fait, à l'émergence de plein de recherches en technologie ou ailleurs. Donc c'est signe aussi de quelque chose de... Donc il y a un bouillon de culture, c'est vraiment très 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 riche. Et moi je suis sensible aussi à ce qu'a dit Geneviève, c'est-à-dire moi, pour moi la science elle vaut si elle est partagée par un grand nombre. Et moi j'ai toujours été obsédé par cette histoire-là, justement le fait d'apprendre des choses et de... Mais pourquoi? Pourquoi et comment on les apprend, c'est-à-dire est-ce qu'on peut les partager avec ses proches ou d'autres qui n'ont pas forcément accès. Donc moi, après avoir accès à des sphères comme ça, avec des grands chercheurs mondiaux, je me suis vraiment intéressé justement à la notion de langage, à la notion de communication, donc pourquoi et comment on le fait, et comment ça touche un grand public. J'ai été président du Club Tangente aussi, qui est le plus grand magazine de vulgarisation mathématique en France. C'est aussi les mathématiques pour tous et pour toutes, le slogan. C'est-à-dire, comment ça impacte la vie de tous les jours, comment ça touche la société, pourquoi on le fait, comment ça peut améliorer. Moi, quand j'entends encore les inégalités alimentaires ou autres, moi, ça me déchire le cœur. Donc, je me dis comment tous ces efforts de collaboration entre chercheurs et sociétés, ça peut participer justement d'une démarche d'équité. Et donc le progrès, oui, mais s'il est partagé, enfin par le plus grand nombre possible.
Merci beaucoup à tous les deux. Je le rappelle, Geneviève Guettem, tu es donc chargée de mission à l'Université d'Orléans pour Sciences avec et pour la société, également enseignante chercheuse. Emmanuel Sepa, alors moi j'ai mathématicien, mais tu es aussi enseignant. Oui. Enseignant-chercheur.
Je suis formateur maintenant, donc j'étais chercheur. Formateur. Je suis, j'aime bien dire, pour résumer, prof de prof. Les gens aiment bien ça leur parle. Donc, formateur de professeur des écoles et professeur de maths de collège-lycée.
Et également membre du groupe de travail Sciences avec et pour la société. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans La Science Infuse. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous. Dans quelques instants, on va écouter, alors je vous disais en ouverture d'émission 2, mais on aura le temps d'en écouter qu'un seul malheureusement, mais les 12 sont à écouter sur notre site internet. Les podcasts des doctorants et doctorantes de l'Université d'Orléans qui nous proposent de découvrir leur thèse, justement sous forme radiophonique. Moonshine et leur titre Too Good sur Radio Campus Orléans. À tout de suite. Dream come true. It's too good. No one's as sweet. Too Good, c'est un titre de Moonchild sur Radio Campus Orléans. Je le rappelle, vous nous écoutez en FM, c'est sur le 88.3, en radio numérique terrestre, également sur orléans.radiocampus.org. Et sur ce site de Radio Campus Orléans, vous pouvez retrouver 12 épisodes d'un podcast réalisé par les doctorants et doctorantes de l'Université d'Orléans en partenariat avec Radio Campus Orléans. 12 participants et participantes qui ont joué à l'aventure radiophonique pour pouvoir justement traduire leur thèse dans un format radiophonique. Je vous propose d'écouter dans La Science Infuse pour les 8 prochaines minutes justement l'un de ces épisodes, c'est celui d'Ahmed Abeb. Lui, il est au laboratoire Meriam Prism, c'est autour de la physique, et lui, son objet d'étude, c'est l'étude et le contrôle en boucle fermée de la traînée aérodynamique d'un véhicule terrestre. Il vous explique ça.
La voiture, c'est le principal moyen de locomotion de la vie de tous les jours. On en compte plus de 250 millions à travers l'Europe. Leur nombre et leur fréquence d'utilisation font de ces véhicules un grand contributeur aux émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. L'Union européenne a décidé d'agir en bannissant la production de moteurs thermiques qui utilisent des hydrocarbures d'ici 2035. Cela veut dire que les voitures futures ne devront plus émettre de CO2. L'alternative, ce sont les véhicules électriques. Le problème, c'est qu'ils ont une autonomie plus faible que leur équivalent thermique. Pour améliorer cette autonomie, il peut y avoir plusieurs possibilités. On peut améliorer la capacité de stockage de la batterie, réduire le frottement des roues, ou bien réduire la masse de la voiture. On peut aussi améliorer l'aérodynamisme du véhicule, c'est-à-dire l'interaction de la voiture avec l'air.
Mais l'air, c'est invisible, c'est tout autour de nous. Comment est-ce que ça interagit avec la voiture ?
Eh bien, quand un objet est en mouvement, une personne à vélo, un camion ou bien une voiture, il interagit avec l'air. Cette interaction a pour effet de ralentir l'objet, et ça, dès une vitesse de 50 km/h. L'air devant le véhicule est alors présent en plus grande quantité qu'à l'arrière, et cet effet couplé freine la voiture. L'air à l'arrière devient alors une remorque que l'on doit tracter. Plus cette remorque est grande, plus il faudra une grande dépense en énergie pour avancer. Dans le cas d'une voiture, cela implique de consommer davantage. Mon rôle, en tant qu'aérodynamicien, c'est de réduire la taille de cette remorque. Cela a pour effet de réduire la consommation, d'améliorer l'autonomie et répondre à la problématique du réchauffement climatique, puisque cela permettrait de moins polluer. Pour influer sur la taille de la remorque, il existe des centaines de façons, plus ou moins complexes. Par exemple, on peut modifier la géométrie du véhicule pour la rendre plus aérodynamique. On obtient donc une voiture proche du sol, de petite taille, et qui a la forme d'une goutte d'eau. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas envie de rouler dans une voiture de course. Ma solution à moi consiste à ajouter des volets à l'arrière de la voiture.
Des volets ?
Oui, des volets.
Ah, tu veux dire comme pour les voitures de course ?
Pas vraiment. Généralement, lorsque l'on s'imagine un volet, on pense à ceux utilisés sur des voitures sportives, avec des formes particulières qu'on appelle spoiler. Mais dans mon cas, ce n'est ni la même utilisation, ni la même position. Mes volets à moi sont placés verticalement, à l'arrière de la voiture, de part et d'autre du coffre, en dessous des phares. Ils ressemblent à deux gouvernails rectangulaires qui ne servent pas à contrôler la direction, mais plutôt à améliorer l'aérodynamisme.
Et comment on fait ça ?
Pour répondre à cette question, il faut revenir un peu avant que l'air ne devienne cette fameuse remorque. Lorsque la voiture est en mouvement, de l'air entre en contact avec la surface du véhicule. Il y a donc de l'air tout autour, mais l'air à droite du véhicule n'est pas en contact avec l'air à gauche. Ce n'est que lorsque le véhicule continue sa route que les deux vont se rencontrer pour former la remorque d'air. C'est ce que l'on appelle un sillage. Et ce sillage, eh bien, il n'est pas figé dans le temps. Il a un mouvement qui lui est propre, dont on arrive à deviner le comportement. Dans mon cas, la remorque se balance de gauche à droite. Plus la rencontre de l'air se fait tôt, et donc proche du coffre ou du culot, plus la remorque sera grande, et donc plus il faudra d'énergie pour avancer. Mes volets permettent de retarder ce moment de réunion entre l'air à gauche et à droite de la voiture.
D'accord, mais comment est-ce que vous avez pu voir le mouvement de l'air s'il est invisible ?
Grâce à ça. La soufflerie Malavar du laboratoire Prism qui peut aller jusqu'à 200 km/h. J'ai à ma disposition une maquette à l'échelle 1/5 de la voiture que j'étudie, une Citroën C4. Cette maquette, je la mets dans la veine d'essai de la soufflerie qui a une dimension de 2 mètres de haut, 2 mètres de large et 5 mètres de longueur. Cela me permet de mesurer à quel point l'air ralentira le véhicule et, pour visualiser le mouvement, je mets des gouttes d'huile d'olive de petite taille dans l'air en amont de la voiture. Avec un laser et une caméra haute résolution, je peux suivre le mouvement de chaque goutte. Cela me permet d'avoir à la fois le mouvement global et local de l'air.
Et pourquoi c'est si important d'avoir les deux ?
Parce qu'on est obligé de composer avec des contraintes qui ont plusieurs origines. Elles peuvent être des contraintes utilisateurs ou bien des normes mises en place par des institutions. Comme je l'ai dit plus tôt, les voitures de course ne sont pas adaptées à toutes les utilisations. Une famille nombreuse a besoin d'espace. Elle veut un grand coffre. Esthétiquement, cela peut ne pas plaire à tout le monde. Tout cela fait que l'on arrive à une limite de ce qu'on peut faire lorsque l'on regarde la voiture dans sa globalité. Les solutions les plus évidentes ont déjà été étudiées. Ce que je veux dire, c'est qu'une action sur la globalité de l'air est généralement le résultat de la modification de la géométrie de la voiture. Mais de nos jours, ces modèles sont le plus optimisés possible. C'est pour ça que l'on trouve que les voitures se ressemblent de plus en plus. Pour aller plus loin et donc répondre aux problématiques du 21e siècle, qui sont le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources fossiles et d'autres, on a besoin d'aller dans les détails pour adapter le volet et son action à la voiture. Et c'est là où j'entre en jeu, en modifiant et contrôlant les volets pour qu'ils s'adaptent à la situation sur la route, en termes de conduite de vitesse et surtout en termes de situation météorologique, par exemple s'il y a une tempête. Et ça, sans modifier la géométrie de la voiture.
Ah, donc les volets bougent donc.
C'est ça. Quand je dis que je vais contrôler mes volets, j'entends par là plusieurs choses. La première, c'est de faire en sorte qu'ils ne s'activent que s'ils sont nécessaires. Cela permet d'économiser l'énergie pour l'activer. La deuxième, c'est de faire en sorte qu'ils puissent changer leur fonctionnement pour différentes vitesses de conduite. C'est-à-dire la position ou bien la fréquence de battement puisque j'envisage que mes volets soient dynamiques. Pour imaginer le contrôle, les voitures ont, pour leur majorité, un régulateur de vitesse. Si je demande une vitesse de 120 km/h, alors le système doit faire en sorte d'accélérer davantage en montée et de ralentir en descente. Mon contrôle à moi va plus loin, puisque le conducteur n'aura pas à commander les volets. Ce seront les informations relevées par des capteurs autour de la voiture qui conditionneront l'action des volets. J'aurai donc une solution personnalisée pour chaque type de véhicule.
Et c'est ça ton travail ?
Oui, pour l'essentiel. Je suis doctorant en deuxième année au laboratoire Prism et mon travail, c'est de proposer une solution peu invasive et peu contraignante permettant d'améliorer l'aérodynamique.